dans toute la Suisse romande du 16 septembre au 4 novembre.
Vacarme.
Je pense que l'aide sociale, c'est vraiment un pansement sur une plaie. Les gens qui arrivent chez nous, ils n'ont pas le choix. Moi, je dis souvent, il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi qui seraient capables de vivre avec les montants qu'on donne à nos bénéficiaires. Et c'est pour ça que pour moi, l'aide sociale, il faut que ça soit donné de façon stricte, rigoureuse et juste, puisque c'est quand même les impôts des gens qui travaillent. Mais si on laisse la plaie s'infecter, pour moi, le risque au niveau de la société, il est encore plus grand.
Vacarme.
La difficile mission des assistants sociaux.
Véronique Marty, Marc Jouz.
Bonjour à toutes et à chacun. Pour conclure cette série de reportages sur le difficile métier d'assistant social, nous allons donner la parole à Verena Keller. Cette ancienne éducatrice et assistante sociale est aujourd'hui chercheuse et enseignante à la Haute École de Travail Social à Lausanne. Elle est aussi membre de différents conseils et comités professionnels et politiques dans le domaine de l'action sociale, tant en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Alors avec elle, on va faire un détour par l'histoire pour constater qu'autrefois, les pauvres étaient considérés comme responsables de leur situation et privés de leurs droits civiques, de la liberté de s'établir et même de fonder une famille. Aujourd'hui, le pauvre est-il toujours considéré comme le principal responsable de son exclusion ? Et quelle est la fonction de l'assistante sociale ? Aider les plus faibles, certes, mais dans quel but ? Faire reculer la pauvreté ou maintenir la paix sociale ? Voici « Pourquoi y a-t-il des pauvres ?» un reportage de Sophie Proust, réalisé par Mathieu Ramsauer.
Dans votre livre « Manuel critique de travail social », vous parlez de l'aide sociale à travers les siècles.
Il y a eu peut-être au Moyen-Âge, donc ça remonte vraiment à très loin, où le pauvre était l'envoyé de Dieu et permettait aux riches de faire la charité, mais pas seulement dans l'intérêt du pauvre, mais pour que le riche puisse après être bien vu par Dieu. Donc vous voyez, c'est aussi assez égoïste. Il y a toujours eu beaucoup de reproches moraux, beaucoup de contrôle sur le comportement des pauvres. C'est pas du tout une invention de notre époque.
Il y a différents pauvres. Il y a des pauvres qui étaient acceptables, entre guillemets, et puis d'autres qu'on négligeait complètement.
Alors, il y a ce qu'on appelle un peu dans le jargon les bons pauvres et les mauvais pauvres. Les bons pauvres étaient ceux qui étaient, pensait-on, non fautifs, pas responsables de leur situation. Et les mauvais pauvres avaient fait un peu exprès. La grande difficulté de toutes les sociétés, c'est de distinguer les uns des autres. Parce que si vous avez une mère seule ou une veuve, aujourd'hui, chez nous, les veuves sont protégées. Mais c'est pas très, depuis pas très longtemps, avant, une mère une mère seule, est-ce qu'elle avait raison d'avoir autant d'enfants? Donc là, même pour une mère seule, on n'est pas très sûr si elle est méritante. Les personnes qui ont toujours été dans toutes les sociétés méritantes, c'est les personnes âgées. Parce qu'elles ont donné, elles ont fait les efforts. Et puis l'âge fait que les personnes ne peuvent plus gagner leur vie par leur travail. Aujourd'hui, on a heureusement l'AVS et toutes les prestations qui vont avec, qu'il faut développer, soit dit en passant. Donc là, c'est plutôt des bons pauvres.
Il y a eu des mesures disciplinaires exercées à l'encontre des familles pauvres, avec même des placements. Donc on a cherché à punir.
On a toujours cherché à punir. Il y avait plusieurs méthodes de gérer la misère ou la pauvreté. Une façon était de les punir, donc de, par exemple, leur enlever le droit de vote. Les pauvres, jusque dans les années 1970, les pauvres suisses n'avaient pas la liberté d'établissement. On pouvait se lier à cette logique de l'origine communale, donc la bourgeoisie, et la pauvreté était gérée par la commune bourgeoise, donc la commune d'origine. Donc si moi, Baloise, j'étais tombée dans la pauvreté à Genève, on m'aurait mis dans un train, j'aurais dû être aidée par ma commune d'origine, donc Bâle. Vous imaginez l'accueil qu'on m'y aurait fait, j'aurais été complètement déracinée. Et il y a encore eu tout récemment l'année dernière une commune tout à l'est de la Suisse qui a refusé qu'une personne à l'aide sociale s'établisse sur son territoire, ce qui est, vous voyez, ça n'a pas tout à fait disparu.
Il y a eu des castrations également.
Et là, on va plus loin dans une des politiques sociales, mais qui était aussi des luttes contre la pauvreté dans des idées d'eugénisme aux alentours des années 1940-1950, pour dire qu'il ne faut pas que les personnes considérées comme ayant une mauvaise vie se reproduisent, fassent souche de pauvres et donc alourdissent la facture pour la commune. Et en plus, je dirais, entame la bonne moralité de la société. La Suisse n'a pas du tout le monopole, c'était assez courant partout. On croyait bien faire. Aujourd'hui, ça nous choque profondément, mais c'était la doctrine de l'époque. Des interdictions de mariage pour de nouveau empêcher les pauvres. Certains se rappellent peut-être de la publication des bons de mariage sur les mairies, où chacun pouvait dire « je ne veux pas qu'un tel marie une telle autre ». Et il suffisait qu'il y ait quelques contestations de la part des habitants de la commune pour que le mariage puisse pas avoir lieu.
Les enfants placés, c'était également une histoire de pauvreté. On retirait les enfants à des familles pauvres.
Oui, on retirait ces enfants, on les plaçait souvent chez des paysans qui étaient contents d'avoir de la main-d'œuvre. Et puis, c'était la façon la moins chère pour les communes de s'occuper de ces enfants. Ils sont venus plus tard des foyers, donc des maisons pour enfants, qui reposent sur des formules très anciennes qui remontent au 19e siècle avec des écoles pour pauvres. Donc, on mettait ces enfants dans des écoles pour leur apprendre un métier. Puis d'avoir aussi un bon comportement par la suite.
Vérina Keller, on a parlé de l'histoire. Aujourd'hui, c'est quoi l'assistance sociale? Ça aide qui? Et que dit la loi? Alors j'ai trois questions dans une seule. Que dit la loi par rapport à ça?
Alors la loi dit, la Constitution fédérale dit d'abord dans son préambule que la solidité de la collectivité se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Donc nous avons une belle Constitution qui base la vie en collectivité sur la solidarité avec le plus faible. Après les articles de la Constitution, c'est l'article 12 qui donne le droit à toute personne dans une situation de détresse d'obtenir aide et secours et soutien. Toute personne. Ça, c'est la loi qui le dit. Les constitutions cantonales et les lois cantonales reprennent ce droit qui est désormais un droit acquis dans tous les pays européens, qui repose sur les droits humains et qui permet à la personne d'obtenir une aide dans la mesure où elle n'est pas en mesure elle-même de se nourrir et de s'occuper d'elle-même.
Qui sont ces personnes?
En Suisse, très variées. Alors, à l'aide sociale sont celles qui n'ont pas droit à de la protection par des assurances. Des personnes qui avaient une vie, des revenus modestes et à qui arrive un malheur qui peut être maladie, non couvert, perte d'emploi, divorce, séparation ou un autre accident de la vie. Sur une situation de fragilité économique ou de fragilité personnelle, mais en tout cas économique, fait que les personnes d'un coup se retrouvent sans rien parce qu'ils n'ont pas pu constituer de réserve, ayant eu toujours de petits salaires. Donc, ils doivent s'adresser à l'aide sociale. Il y a quelques jeunes. Les jeunes, c'est le groupe social qui diminue et qui reste très peu de temps à l'aide sociale puisque l'aide sociale les aide à acquérir une formation, ce qui réussit pas toujours, mais souvent. Les personnes qui restent longtemps à l'aide sociale, c'est les mères, chefs de famille, après un divorce, après une séparation, qui peuvent pas travailler plus que tant, donc attendre que les enfants grandissent, et puis après, elles retrouvent d'une façon très générale, une autonomie financière. Le dernier groupe qui reste très longtemps à l'aide sociale, c'est les personnes proches de la retraite. Et d'ailleurs, le canton de Vaud a mis en place un système pour les sortir de l'aide sociale, estimant que c'était plus digne pour ces personnes d'avoir un pont en attendant la retraite. Ce qu'il faut savoir encore, c'est que beaucoup de personnes à l'aide sociale travaillent, un petit tiers travaillent, dont une partie à plein temps. Donc c'est des working poor, des personnes qui sont bien sous tout rapport, qui font tout ce qu'il faut pas du tout des personnes exclues ou délabrées psychiquement qui vont bien, à part qu'ils ont du stress et du souci, parce que c'est pas très agréable d'être à l'aide sociale. Donc vraiment des catégories très différenciées et dans une bonne mesure des personnes intégrées dans la société.
Verena Keller, dans l'un de ses livres, décrit l'assistance sociale comme un gestionnaire de la misère. Vous quatre, qui êtes assistants sociaux à Montais, vous réagissez comment à cette définition, finalement, de votre profession ?
Je trouve que c'est vrai. Gestionnaire de la misère. Je pense que c'est bien, parce que ça, gestionnaire, ça correspond à plein de choses, je trouve. Et c'est vraiment... On nous appelle souvent à l'aide sociale des généralistes, parce qu'on fait plein de choses, mais moi, je pense qu'on est plutôt des multispécialistes dans plein de domaines. Et ça me fait vraiment penser à ça. Il faut qu'on soit gestionnaire, il faut qu'on soit psychologue, psychiatre, avocat. Agent d'insertion. Alors même que dans certaines situations, les personnes, elles ont déjà fait 2 ans de chômage, voire plus, où il y a, avec le chômage, où ils ont plus de mesures de réinsertion que nous. Et puis on attend de nous qu'on, tout d'un coup, on trouve des boulots, qu'on trouve des ci, des ça. Ça fait énormément de casquettes qu'on doit gérer. Mmh. Donc ça fait beaucoup de boulot.
Est-ce que vous avez l'impression d'être des pansements d'un système politique, social, d'une organisation sociale qui prend un peu l'eau ?
Je m'excuse, je parle tout le temps. Hein. Mais moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on tape sur le dos de l'aide sociale en disant « Ouais, l'aide sociale, ça coûte cher, et puis les assistants sociaux, c'est des grands naïfs qui distribuent l'argent public, qui dilapident l'argent public. » Et moi, je me dis toujours, ce qui est dingue, c'est que l'aide sociale, ça pourrait être vu quand même comme un indicateur sociétal assez important, dans le sens où de se dire, ben, puisqu'il y a plus de jeunes qui sont à l'aide sociale, quels sont les problèmes en amont qui font que ces jeunes-là, ils viennent à l'aide sociale ? Quand on regarde que les politiques, ils font des économies, surtout dans le domaine de l'éducation, on va aller après, je ne sais pas trop où, il y a plus d'élèves dans les classes, il y a moins de cours d'appui, moi, je ne comprends pas qu'on ne se dise pas à un moment donné, mais... Ces jeunes-là, qui sont un petit peu moins doués que les autres, si on a ici, ils n'ont pas un suivi à la base, mais c'est des jeunes qu'on retrouve.
Qu'on retrouve chez nous, mais qu'avec les nouvelles directives, qu'on ne nous laisse pas les soutenir comme on devrait le faire.
Pour les jeunes, ils ont un budget maintenant, les moins de 25 ans, de 500 francs par mois. Mais comment vous cherchez un apprentissage ou comment vous cherchez un emploi ? Surtout que maintenant, il faut souvent, avoir un rayon de recherche assez important. Comment vous faites avec 500 francs pour vous rendre régulièrement à Lausanne, à Sion, à Fribourg, peut-être même à Genève, pour chercher de l'emploi, faire des démarches, avoir une connexion Internet ? Je veux dire, c'est juste pas possible.
C'est clair que si tous les droits autour de nous, notamment l'AI, le chômage, donc se restreignent, automatiquement les gens, quand ils arrivent au bout, bah, il y aura mathématiquement plus de personnes qui viendront à l'aide sociale. Voilà.
C'est... Non, mais moi j'aime bien l'image du pansement quand même.
Je pense que l'aide sociale c'est vraiment un pansement sur une plaie. Les gens qui arrivent chez nous, ils n'ont pas le choix. Moi je dis souvent, il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi qui seraient capables de vivre avec les montants qu'on donne à nos bénéficiaires. Pour une personne seule, c'est 986 francs, plus le loyer. Franchement, pour vivre en Suisse avec 986 francs, c'est vraiment pas grand-chose. Si on enlève ce pansement, ces gens, ils vont quand même devoir vivre. Et il ne faut pas qu'on oublie que l'aide sociale, pour moi, c'est quand même le garant de la paix sociale en Suisse. Si on enlève le pansement, la plaie, elle va s'infecter. Si on ne donne pas l'aide sociale à ces gens, moi, le jour où mes enfants ils ont faim... Je ferai en sorte qu'ils mangent, peu importe ce qui m'arrivera. Et c'est pour ça que pour moi, l'aide sociale, il faut que ça soit donné de façon stricte, rigoureuse et juste, puisque c'est quand même les impôts des gens qui travaillent. Mais si on laisse la plaie s'infecter, pour moi, le risque au niveau de la société, il est encore plus grand.
Vous dites que ce n'est pas très agréable d'être à l'aide sociale. Pourtant, on entend souvent, il y a des abus, il y a des tricheurs.
Oui, 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 on entend ça souvent. C'est un discours qui n'est pas nouveau dans l'aide sociale, qui est problématique parce que, bien sûr, il favorise la honte, donc il empêche des personnes qui seraient à la limite et qui devraient aller à l'aide sociale pour plus vite retomber dans une situation saine, n'y vont pas parce qu'ils ne veulent pas avoir cette étiquette d'être un tricheur. Maintenant, c'est toujours... la presse aime beaucoup ces histoires à scandale. Il y en a de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi il n'y en aurait pas à l'aide sociale alors qu'il y en a partout ailleurs. Le comptable qui se sert dans la caisse, des personnes qui font des abus dans les assurances vol, etc. Et puis, n'oublions pas, là où il y a vraiment beaucoup d'argent qui se perd, c'est le fisc. C'est toutes les optimisations fiscales, comme on dit très poliment. Là, il y a des milliers et des milliers. Et là, il y a vraiment des choses graves qui, je dirais, allègent les budgets des collectivités. Donc, on peut moins bien aider, faire moins d'écoles, faire moins de choses qui serviraient à tout le monde. Là est le vrai scandale. C'est un demi-pourcent, 1 ou 2% de personnes qui ont vraiment abusé dans le sens qu'ils n'ont pas dit tout ce qu'il fallait dire à l'aide sociale. Et ça peut être quelques dizaines de milliers de francs, mais c'est extrêmement peu. Donc tant qu'on monte en épingle ces histoires-là, on ne s'occupe pas de poser la question « Pourquoi les gens sont-ils pauvres ?»
Pourquoi les gens sont pauvres ?
On est dans une société qui n'est pas basée sur l'égalité, sur, selon mon analyse, une société de classe, une société où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes, où les jeunes n'ont pas les mêmes droits que les moins jeunes. Les salaires sont pas toujours suffisants, les appartements sont extrêmement chers, on manque de places en garderie, en crèche, en structure d'accueil pour les écoliers, ce qui empêche les parents de travailler. C'est une société où beaucoup d'éléments font que les conditions défavorables se reproduisent de génération en génération et peuvent, moyennant un accident qui arrive, plonger les personnes dans la pauvreté.
Je vais être provocatrice, mais pourquoi pas finalement ? Est-ce que l'aide sociale, ce n'est pas un moyen d'acquérir une paix sociale, c'est-à-dire que les gens ont de quoi vivre, donc ne vont pas imaginer une autre organisation sociale.
La misère peut aussi, et c'est peut-être un peu ce qu'on observe en Europe aujourd'hui, elle peut aussi faire le lit de sociétés autoritaires, fascistes. Et les personnes qui sont elles-mêmes en difficulté, des chômeurs, des personnes à l'aide sociale, il y a parmi ces personnes passablement de racisme, de xénophobie, parce que les personnes en difficulté, dans la misère, cherchent des explications faciles et qui leur redonnent leur dignité. C'est quand même plus facile de taper sur un étranger, un plus faible que soi, plutôt que dire, il y a toute la société qu'il faudrait changer.
On a beaucoup soulevé des problèmes de burn-out, de turnover, des termes anglais qui veulent dire que finalement il y a une charge de travail que ne supporte plus, dans le sens comme on supporte un poids, hein, ne supporte plus les travailleurs des services sociaux. À quoi c'est dû ?
La densité du travail va en augmentant, l'exigence de précision est partout de plus en plus forte, la bureaucratisation, donc cette nécessité de non seulement faire le travail, mais de rendre des comptes sur le travail qu'on a fait, c'est une donnée très générale. Donc il n'y a rien de spécifique, ce n'est pas pour banaliser le problème, mais il n'est pas spécifique au service social ou au travail social.
Sauf qu'il y a peut-être de plus en plus d'exclus dans une société de l'efficience absolue. Quand on a 15, 20, 20 ans, on nous dit « vous n'avez pas assez d'expérience ». Quand on a entre 40 et 50, on en a trop, on coûte trop cher. Et peut-être certaines personnes ne peuvent pas entrer dans ce modèle-là.
Ça pose la question des objectifs réalistes du travail social. Et il est vrai que pour beaucoup de travailleurs sociaux, ils ont le projet de pouvoir réinsérer les personnes ou d'y contribuer. Ils n'y arrivent pas. une partie des travailleurs sociaux prennent sur eux, disent « je suis un mauvais travailleur social » ou « j'ai un mauvais chef » ou « une malheureuse organisation dans mon service » et c'est ça qui fait que j'y arrive pas. Il leur manque peut-être une analyse un peu plus politique et plus large pour dire « mais on peut pas dans une société inégale arriver à rendre tout le monde heureux. » Et tant qu'on attend ça de soi et de son service, on va être effectivement très malheureux. Il est vrai que ces dernières années, les exigences des communes, des cantons ont été très pointilleuses avec mise en place parfois d'inspecteurs du social qui vont à couvert, donc qui suivent les personnes pour voir si elles ont dit vrai. Il y a eu, je dirais là, on a été vraiment trop loin parce que trop de contrôle tue le contrôle. Finalement, les gens qui veulent vraiment tricher, ils sont très rares, mais ils trichent un peu mieux. Il faudrait un peu plus de confiance et vis-à-vis des travailleurs sociaux et vis-à-vis des usagers. Ça serait plus efficace et moins cher.
Vous avez écrit la charge héroïque. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on décrive le petit dessin.
Alors, c'est deux personnes qui discutent ensemble. Il y a une personne qui a l'air vraiment abattue, triste, fatiguée. Et un ami lui dit « Pourquoi vous n'allez pas voir l'assistante sociale ?» Et la personne abattue dit « C'est moi l'assistante sociale. » Et c'est un peu ça, effectivement, la situation. La vraie solution, une contribution pour que les travailleurs sociaux se sentent mieux, c'est de réfléchir à leur mission. C'est d'être un peu plus réaliste sur ce qu'on attend d'eux et ce qu'ils peuvent faire. Et j'ai fait un travail dans des lois qui prescrivent le travail social. Et ces lois sont beaucoup plus raisonnables que les travailleurs sociaux. Ces lois disent que les travailleurs sociaux doivent contribuer, doivent favoriser, doivent aller vers et pas doivent obtenir la réinsertion complète et entière.
C'est très intéressant ce que vous dites. Vous voulez dire que, par exemple, les autorités accepteraient de ne pas avoir de retour sur investissement ?
C'est pas qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Des travailleurs sociaux ou un service social qui permet à maintenir juste hors de l'eau un certain nombre d'habitants de la commune, je ne sais pas ce qu'il faut encore plus comme plus fort investissement. C'est un travail extrêmement considérable. D'aider des jeunes pendant un temps, de garder le lien entre le jeune et un service social, c'est un travail extrêmement considérable. Parce que si on ne le fait pas, ce jeune pourrait complètement s'isoler et puis se droguer, devenir criminel et toutes sortes de choses. C'est grâce aux travailleurs sociaux qu'ils restent dans la société.
Isabelle Lou, vous êtes enseignante à la Haute École de Travail Social et de la Santé à Lausanne. On a un peu l'impression que c'est un métier où on donne du temps, de l'argent, des perches pour essayer de s'en sortir. Qu'est-ce que reçoit l'assistant social ?
Alors, c'est dans la relation et puis dans les capacités des gens. C'est incroyable. Non mais franchement, souvent quand on voit les exemples, c'est rien en comparaison de la réalité. Parce que souvent quand même, les efforts que les gens font, la créativité, l'ingéniosité qu'ils développent pour survivre, pour continuer, et ça va un peu à l'encontre, hein, qu'on se dit, voilà, ils ont des problèmes, donc ils se laissent aller. Et puis, en tout cas dans la réalité, est-ce que j'entends, puisque les gens disent, non, ils se battent. Et puis ça, quand même, au niveau humain, c'est assez impressionnant. Et on apprend, on se pose des questions, on construit avec l'autre. Donc ça, c'est quand même aussi très satisfaisant. Et je pense qu'on apprend beaucoup avec les autres. Et c'est ce qu'on reçoit en tant que professionnel.
(058) 236 236 0 pour réagir à ce reportage de Sophie Proust. Après avoir entendu Verena Keller, quelle est votre opinion sur la pauvreté en Suisse et sur l'efficacité des dispositifs d'aide sociale? 058 236 236 0.
Vacarme, Marc Jouze, Véronique Marty, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Sophie Proust, Mathieu Ramsauer.
Dimanche, dans les Échos de Vacarme, entre 9h05 et 10h sur RTS La Première, je recevrai Jean-Pierre Tabin, professeur et chercheur à la Haute École de Travail Social et de Santé de Lausanne. Et puis Christophe Giraud, directeur de l'Hospice Général, l'institution genevoise d'action sociale. D'ici là, je vous souhaite un bon début de week-end et je vous laisse en compagnie d'Émilie Gasque pour Passagère. À dimanche dans les Échos.
Vacarme, avec la nuit du court-métrage, en tournée dans toute la Suisse romande, du 16 septembre au 4 novembre.
Une heure et demie.
Passagère. Émilie Gasque.
Salut. Avec l'injonction de devoir réussir sa vie, réussir, les échecs sont impitoyables pour l'ego. Et en amour, rien de pire. Mais que disent-ils de nous, les échecs? Hippocampe fou.